l'ho ben detto tutte me coppie.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Et on commence, comme d'habitude, avec Thierry. Salut Thierry.
Bonjour, bonjour.
Et sa revue de presse.
Oui, oui. Vous ne direz rien des disparus. Il y a toujours des nouveautés. Les enquêtes se poursuivent. Il faut bien alimenter, comme on disait en presse il y a quelques... au siècle dernier, je ne sais pas si on le dit encore, les chiens écrasés. Oh, mais non. Le petit Émile, un chien écrasé. Oh, non, non, non. Bon, sinon, on va commencer par... des choses plus agréables. Sud-Ouest, il y a eu... on a parlé de la révolution portugaise d'il y a quelques dizaines d'années, et un camarade sévit, à la Clé des Ondes tous les week-ends dans les émissions portugaises. Voilà, voilà. On cause de la Clé des Ondes dans Sud-Ouest. Eh bien, voilà, voilà. Alors, sinon, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent, chères auditrices, chers auditeurs? Ben, il paraît que on va refaire en extension la gare de Bordeaux, bien sûr, Saint-Jean. Alors, il y aurait... des sous à avancer, 100 millions. Wow, un lifting cher quand même, 100 millions. Sinon, on a parlé un peu partout, Gaza, ça ne s'arrange pas, et vous avez peut-être entendu, lu, que le mémorial de la Shoah, alors je dis toujours Shoah, mais je préfère dire Holocauste. Enfin, c'est le sujet à polémique. Plus maintenant, mais il y a quelques années, c'était la polémique. J'avais des camarades d'origine juive qui disaient « il ne faut pas dire Shoah, parce que c'est un mot religieux. Il faut dire Holocauste. » Ah bon, enfin bref. Alors, il y avait sur le mausolée pour les victimes du nazisme, on va dire ça comme ça, eh bien, il y avait des mains rouges. Alors, mains rouges, ça a été brandi aussi dans les manifestations pro-palestiniennes à Paris et autre part, à Sciences Po et tout ça. Et, enquête faite, c'est encore des gens payés par la Russie. Oui, monsieur, oui, madame, par la Russie. Alors, la dernière fois, c'était au tout début des tensions armées en Israël-Gaza, et c'était des étoiles de David. Et, au début, on avait dit, c'est l'antisémitisme, c'est pas de l'antisémitisme, pile, face. Et en fait, non, c'était des Moldaves, c'était des Moldaves, à la solde de Moscou, qui avait fait ça. Et ils auraient pris, pour partir de la région parisienne, un bus, je ne sais plus comment on appelle ça, pour aller en Belgique. Alors, il paraît que là, c'est la même chose, mais ce n'est pas des Moldaves, c'est des Bulgares, ou le contraire, qu'importe. En fait, enfin, voilà, c'est l'étranger, voilà. Et aussi, quand ils ont vu que ça commençait à chauffer pour eux, ils ont aussi pris un véhicule de transport pour aller en Belgique. Oh là là, alors qui est-ce qui est coupable? Poutine, les Belges, le roi, le président, Allez savoir, allez savoir. Alors sinon, quoi, à droite, à gauche. Oui, il y avait, j'ai vu ça. Vous savez, bien sûr, on en a été aspergé, on va dire comme ça, que la flamme olympique est passée par la Gironde. Eh oui. Alors, il y avait des gens qui étaient contents, d'autres, certains, dans la rive droite, qui ont collé des affiches en disant on préférait des augmentations de salaire plutôt que vénérer la flamme dite olympique. Voilà, voilà. Sinon, Trump fait encore ses élucubrations. Alors, est-ce qu'il va être emprisonné ? Va-t-il pas être emprisonné ? De toute façon, en ce moment, on parle un peu, mais de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'à la Nouvelle-Calédonie, moi, je me souviens, il y a 30 ans, malgré toutes les bêtises qu'on a écrites et dites sur lui, c'était quand même Rocard qui avait réussi avec d'autres. Je ne nommerai pas parce que j'ai oublié les noms précis. Voilà. Qui avait fait une sorte de paix des braves, pourrait-on dire. Et ça a duré 30 ans. Alors maintenant, Emmanuel voulait s'affirmer. Eh ben, bravo. Alors, jusqu'à ce soir, il y a, plutôt mardi matin, oui, c'est demain matin, il y a un retour au calme, au moins dans les publications officielles. Alors, on verra bien. Sinon, que peut-on dire ? Oui, l'humanité tape encore sur... Oui, alors, de manière étrange, 20 minutes, l'humanité est libée, à la une, c'est la fin de vie, l'ultime liberté. Point d'interrogation, quand même, point d'interrogation. Voilà. Sinon, il y a, à la fin de la semaine, pas mal de célébrations sur la Gironde. D'autres émissions vous feront la liste, on verra ça tout bien. Bon, ben sinon, aurions-nous encore dire quelque chose à dire, mon cher Baptiste ?
Ah, c'est à toi de le dire.
Ah bon.
De mon côté, je n'ai pas fait la revue de presse.
Certes. Mais tu pourrais faire des commentaires désagréables sur la une de Sud-Ouest d'hier, la fête des mères. Dites-le avec des fleurs. Alors là, on apprend quand même ce que tout le monde devrait savoir, que les fleurs coupées ne sont même pas coupées en France. Alors, il paraît que les tulipes ne viennent plus d'Hollande. Enfin, il paraît que c'est... Tout le monde devrait le savoir, ça vient d'Afrique du Sud. Diable. Bon, alors, mes lunettes sont là. Ah si, j'ai trouvé des horreurs dans le canard enchaîné. Dans le canard enchaîné, on trouve souvent des drôles de choses. Alors, après, ils n'auront pas des procès, mais... Le procès du canard enchaîné, c'est en juillet, je crois. Alors, le 20 juillet, ça fait bien pour un emploi fictif. Alors, les gens du livre et les anciens disent « Comment ? Même le canard enchaîné, il y a des magouilles ?» Eh oui. Et ça va se régler au tribunal en juillet. Se régler, à mon avis, non. Alors, on peut dire qu'ils ont mis le temps aussi, parce que c'est bien pas qu'en Nouvelle-Calédonie où Macron concède du temps. Alors, de toute façon, de toute façon. Ce qui nous reste de gouvernement, ah là là, je compulse la une du Monde du week-end, Nouvelle-Calédonie, récit d'un échec politique. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, oui.
Merci Thierry.
Ah ben voilà, bon voilà, je voulais dire des bêtises sur un chef d'orchestre.
Oui, mais tu ne retrouves plus ton papier, il est sous ta montagne de journaux.
Ma montagne. Nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas de montagne. Voilà.
Sauf des montagnes de journaux. Merci Thierry pour tout ça. On enchaîne dans le plâtrissant des vieux fourneaux. Et comme l'a dit Thierry, Graziella est partie en vacances, mais elle nous a laissé avant de partir quelques interviews glanées ça et là à Bordeaux. On va commencer par une interview de Vincent Tibéri, qui est professeur et sociologue à Sciences Po Bordeaux, qui était présent lors d'une table ronde organisée par la Ligue des droits de l'homme autour de la question de la démocratie. En France, sommes-nous encore en démocratie? Et c'est là-dessus que Graziella l'a interrogé.
Je voulais vous poser une question concernant le discours de la Ligue. Qui dit finalement il y a une dérive d'un État démocratique vers un État autoritaire, et en même temps le seul rempart ce sont les institutions. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors c'est pas forcément mon domaine de spécialité, mais ce que dit la Ligue est effectivement inquiétant du point de vue des libertés de parole, hein, de liberté d'expression, également du côté des libertés associatives, hein, puisqu'il y a une mise sous contrôle des associations en général, une mise à distance notamment avec des moyens de rétorsion, avec des interrogations. Hein, on l'a vu, la Ligue a été directement attaquée au Parlement parce que justement ils avaient surveillé des actions policières, a pris des positions importantes sur le rapport de la police avec la population. Donc il se passe des choses effectivement en termes de liberté d'expression, en termes de droit à la critique qui doit interroger. Mais c'est qu'une des manières de... Enfin, c'est qu'une des histoires en fait. Parce qu'en face, effectivement, même si en haut, on semble avoir de plus en plus des problèmes avec la liberté, avec la critique, y compris parfois la critique universitaire, il n'empêche qu'aujourd'hui, on est face à des citoyens qui ne se contentent plus d'être simplement des électeurs. On est face à des citoyens qui critiquent, on est face à des citoyens qui sont armés pour jouer leur rôle de contre-pouvoir. Donc quelque part, si on réfléchit, c'est peut-être au sens institution beaucoup plus large. C'est-à-dire que les institutions, c'est pas simplement le Parlement, c'est pas simplement les élus, c'est les assos, c'est les collectifs, c'est les syndicats, c'est les citoyens.
Vous avez vu la révolte des banlieues comme moi, mm-hmm. suite à l'assassinat de Naël, mm-hmm. et pour autant, on a eu l'impression que la seule réponse qui était faite, c'était de leur rentrer dedans. Ces jeunes demandaient des choses, et en même temps, la seule réponse, elle a été la répression.
Oui, alors déjà, ça part d'une réalité. Hein, quand on mesure le rapport entre la police et la population en général, et surtout la police et la population racisée, hein, minorisée parce que d'une certaine couleur de peau, parce que d'une certaine confession supposée, eh bien, on sait qu'il y a effectivement des problèmes. On le retrouve dans la plupart des enquêtes quantitatives qui mesurent ces questions-là. Donc à un moment, le vrai travail quand on est un policier, c'est de s'interroger sur ces discriminations, sur ces contrôles aux faciès, sur ce rapport à la population qui est un vrai souci. Soit d'autant plus que ça se passe pas de la même façon, en tout cas de manière beaucoup plus apaisée dans d'autres pays européens. Alors, les États-Unis c'est encore autre chose, mais quand vous prenez la police en Grande-Bretagne, la police en Allemagne, la police en Belgique, ils réussissent à avoir un rapport à la population beaucoup plus apaisé et beaucoup moins marqué par ces questions de discrimination. Et donc dans le cas des violences et notamment des émeutes de l'été dernier, on se retrouve dans la même situation qu'en 2005, c'est-à-dire que on ne voit que des jeunes qui cassent, on ne voit d'ailleurs que des jeunes qui cassent, y compris des magasins, mais aussi des institutions de la République, sans se poser la question de ce que ça produit et ce que ça dit aussi de l'état de ces quartiers, de la relégation qui va avec, mais également de la non-reconnaissance symbolique de leur place dans la société. Et donc, en soi, c'est pas simplement parce que les parents tiennent pas leurs gamins, c'est pas simplement parce qu'il y aurait un problème de jeux vidéo ou de réseaux sociaux, c'est parce que la République veut leur apprendre liberté, égalité, fraternité d'une part, mais ne réussit pas elle-même à appliquer ces valeurs républicaines.
Le ministre Attal, non, il est Premier ministre, il a commencé à dégainer tout un plan contre les jeunes dans les écoles, c'est-à-dire avec retour à l'uniforme, punition, internat obligatoire, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est pas comprendre ce que c'est que la jeunesse. En fait, je suis même assez frappé parce que, par exemple, si on prend le service national universel, qui pour l'instant n'est pas universel, qui n'est pas national, qui est sur la base d'un volontariat, une des dimensions, c'est théoriquement d'apprendre l'engagement aux jeunes. Je crois que les jeunes n'ont pas besoin de ce service national pour s'engager. En fait, ils sont multi-engagés pour beaucoup d'entre eux, contre le climat, contre les inégalités, contre le harcèlement, contre les inégalités de genre. Il se passe plein de choses extrêmement intéressantes dans cette jeunesse. Et c'est pas en les mettant en uniforme à se lever le matin à 6h du mat pour chanter la Marseillaise qu'on leur apprend l'engagement. L'engagement, il est déjà là. En fait, je pense que le vrai souci, c'est de leur donner une vraie place, un vrai poids citoyen. En quelque part, si on doit réfléchir à la jeunesse, c'est comment on fait pour que les jeunes puissent de plus en plus être dans une forme de démocratie scolaire. Comment on fait pour que, effectivement, la République soit une réalité quand il s'agit des inégalités entre établissements. Et aujourd'hui, le souci, c'est pas l'uniforme. C'est le fait que vous vous retrouvez dans des situations de séparatisme social, mais de séparatisme social par en haut, avec des élites qui font sécession, mais qui font aussi sécession à travers leurs enfants et leurs choix scolaires. Et donc, quelque part, l'école de la République, ça devrait être une école de la rencontre. Aujourd'hui, c'est de plus en plus une école séparée.
Voilà, Vincent Tibéri, sociologue enseignant à Sciences Po Bordeaux, au micro de Graziella. Et ça fait du bien de remettre les choses en place et dans l'ordre. Deuxième interview que nous a laissé Graziella, c'est pour parler de la presse indépendante, cette fois avec la revue Politis. C'est l'association qui la soutient pour Politis, dont un des membres était présent au Village des droits et libertés organisé par la Ligue des droits de l'homme.
Je suis Bruno Bouillet, je suis un lecteur du journal hebdomadaire Politis, et également membre de l'association Pour Politis, qui est une association qui a été créée pour soutenir financièrement, mais aussi moralement et de manière militante, la diffusion du journal Pour Politis.
Alors ce journal Politis, il critique beaucoup la mainmise sur les médias des empires financiers.
Oui, absolument. Politis est un journal indépendant. Mais ce n'est pas un journal impartial, c'est un journal qui a un parti pris, mais qui le dit ouvertement, contrairement à beaucoup d'autres médias. Donc lorsqu'on lit Politis, lorsqu'on achète Politis, on sait à quoi on peut s'attendre. Il critique effectivement le système médiatique tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il existe actuellement, autant dans la presse papier que sur le web ou que dans la presse télévisée et même radiophonique, parce qu'on voit bien à l'heure actuelle que même dans les médias publics, et notamment la radio publique, il y a un vrai problème de liberté d'expression et de liberté de la presse. Alors Politis, oui, effectivement, il milite pour l'indépendance, pour la liberté d'opinion, pour la liberté d'expression, mais tout ça, ça a un coût, ça a un prix, et c'est la raison pour laquelle l'association pour Politis est là pour les aider, pour les soutenir, et pour aider à la diffusion et à la connaissance du journal et des idées qu'elle véhicule.
Aujourd'hui, on est face à une montée de l'extrême droite dans ce pays, avec quand même des médias, et notamment sur les réseaux sociaux, qui s'en donnent à cœur joie, je dirais, par rapport à la politique qu'on devrait mener en France.
Absolument, absolument. Et c'est extrêmement inquiétant, et pour ma part, je trouve ça même très effrayant. C'est ad nauseam que tous les jours, on entend dans la presse des propos qui relayent mais continuellement les opinions d'extrême droite, sans que ça ait l'air de gêner personne. C'est-à-dire que progressivement, mais de plus en plus intensément et de plus en plus rapidement, les idées d'extrême droite deviennent complètement banalisées dans le discours qui est véhiculé par les médias. Et on ne s'offense plus d'entendre des responsables du Rassemblement national parler de remplacement, de grand remplacement, parler de politique xénophobe, islamophobe, et ça devient totalement courant, totalement banalisé. Et c'est effectivement extrêmement effrayant. Et heureusement qu'il y a des journaux, alors il y a Politis, moi c'est le journal que je soutiens, mais heureusement qu'il y a d'autres médias qui ont tous la particularité d'être indépendants, car tous les médias qui ne sont pas indépendants ben, laissent passer ces messages-là, laissent véhiculer ces propos-là. Heureusement qu'il y a des médias encore en France qui propagent, pas la bonne parole, mais qui propagent une parole, indépendante, et qui se veut assez distante vis-à-vis de cette propagation d'idées d'extrême droite qui sont extrêmement dangereuses pour notre état de droit, mais plus généralement pour notre société. Parce que les idées infusent dans les gens du quotidien. Enfin, c'est extrêmement effrayant.
Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à la liberté d'expression ?
Ah ben, à titre personnel, oui. Moi, je suis particulièrement inquiet. Il se trouve que, par ailleurs, je suis avocat, donc je défends des personnes devant les tribunaux, notamment à Bordeaux, qui sont interpellés simplement parce qu'ils ont fait un malheureux collage ou un malheureux tag de rien du tout. J'ai encore défendu, pas plus tard qu'il y a quelques mois, des jeunes qui avaient fait un tag qui faisait 10 cm sur 5 cm. Ils ont passé 25 heures en garde à vue et ils ont été déférés devant le tribunal pour ce type d'infraction. Mais de manière plus générale, quand on voit ce qui se passe, notamment avec l'humoriste Guillaume Meurice, mais il y a de mille occasions de s'effrayer des atteintes constantes à la liberté d'expression et à la liberté de la presse dans notre pays. Alors moi, je vous dis, en tant qu'avocat, je défends souvent des manifestants qui ont eu le seul tort d'avoir été présents dans des manifestations pour faire valoir de manière collective leur opinion personnelle. Et ça, c'est très grave, parce que maintenant, on trouve normal de faire déférer devant un tribunal ou d'infliger une amende à une personne simplement parce que, dans l'espace public, il a diffusé son opinion.
C'est au nom de la lutte antiterroriste, souvent, que finalement l'État écrase des libertés individuelles et des libertés publiques.
Oui, alors pour les dossiers les plus sensibles, ils se servent de la législation antiterroriste. Au plan juridique, ils se servent de la législation antiterroriste pour déployer des moyens procéduraux et policiers extrêmement violents et extrêmement contraignants. Mais la plupart du temps, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont simplement besoin d'un parquet aux ordres. Ils ont simplement besoin d'avoir des consignes strictes pour appliquer des mesures qui existent déjà dans notre procédure pénale, pour faire, pas tout et n'importe quoi, mais pour effectivement brider la liberté d'expression ou brider la liberté de manifestation. Ils n'ont pas besoin de la législation antiterroriste. Hein. Ils ont simplement besoin d'un parquet qui applique strictement les consignes que leur donne le ministère. Et ça, ils n'ont pas besoin de la législation antiterroriste pour ça. Ceci dit, ils s'en servent maintenant de plus en plus souvent pour légitimer dans l'opinion des mesures de procédure pénale dont ils n'auraient pas besoin de se servir de ça pour appliquer la répression. Mais dans l'opinion, ça sert de légitimation. On vient dire que c'est parce qu'il y a un danger terroriste qu'on applique ces mesures. La plupart du temps, c'est faux. Et la plupart du temps, on ne réunit pas la juridiction compétente en matière de terrorisme, alors qu'on a déployé toute la procédure policière liée à la législation terroriste pour déférer les personnes, soit en garde à vue, soit devant le tribunal. Donc il y a un vrai problème aussi qui est celui de la liberté d'expression, mais il y a un vrai problème aussi qui est celui de la courroie de transmission entre le pouvoir en place, le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire par le biais, non pas des juges, mais des procureurs. Et ça, moi, je le vois en tant que professionnel de la justice. C'est une vraie difficulté à laquelle on se heurte régulièrement. Heureusement qu'il y a encore des magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui jugent, qui arrivent à se départir de cette emprise de l'exécutif sur l'autorité judiciaire.
Merci beaucoup, maître.
Merci.
Voilà, maître Bouillet, puisque en plus d'être lecteur et membre de l'association Pour Politis, Bruno Bouillet, il est avocat et il intervient d'ailleurs régulièrement dans la chronique Les Clés des Libertés, le jeudi, dans le plat de résistance. 12h35 sur la Clé des Ondes, on va écouter un peu de musique.
Des ondes, mais ce n'est pas Bordeaux Blues. Non, non, non. Mais c'est Len Lyman Jefferson, un des héros du blues texan, oui. Alors, Len Lyman Jefferson, pour ceux et celles qui ne comprennent pas l'anglais, c'est Jefferson, le citron aveugle. Bon. Il était aveugle de naissance et il chantait dans la rue, ce que tout le monde oublie, avant de chanter surtout dans les studios d'enregistrement. Voilà. Bon, et ben.
Et on pourra l'entendre plus en longueur mercredi dans Bordeaux Blues cette fois.
Ben voilà, comme on l'a déjà écouté la semaine dernière. Nananer.
Puisque c'est le blues des montagnes.
Voilà, le blues des montagnes. Où il y a surtout des blancs qui chantent, mais Len Lyman Jefferson était apprécié, paraît-il, et de toutes les façons, par les blancs comme par les noirs. Voilà.
Vous écoutez La Clé des Ondes sur le 90.10 et sur laclédesondes.fr. La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.